Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour, bonjour. 17 juin 2025, j'espère que vous êtes en forme. Il fait chaud, hein? Il va faire chaud aussi. Avec Humidex, là, ça nous donne des sueurs. Pas froid, mais chaud. Ça va, Mathieu?
Je me demande ce que ça donnerait d'avoir des sueurs froides en pleine canicule. Est-ce qu'on ferait de la
bleue? Oui, mais ça peut arriver quand même, selon ce qu'on vit. Alors aujourd'hui, un gros mardi, beaucoup de choses au menu. On va parler de bière, le Mondial de la bière de Montréal qui commence le 20 juin, qui se poursuit pendant 3 jours, avec celle qu'on qualifie de l'âme du Mondial de la bière, présidente de cet événement. Elle s'appelle Janine Marois. Elle sera avec nous en fin d'émission. On aura également des nouvelles francophones du Canada en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco Presse. L'actualité internationale, c'est François Larochelle, ancien diplomate canadien, qui sera avec nous pour nous parler du sommet du G7 qui se déroule à Kananaskis en Alberta. Et Donald Trump est parti hier, plus tôt que tout le monde. Donc, on parle de lui, entre autres choses. On disait que c'était l'éléphant dans la pièce, mais là, l'éléphant a quitté la pièce, mais on en parle encore. Et puis, devant moi, André Lacombe. Bonjour, André.
Bonjour, Hélène.
André, vous nous avez préparé un combo ce matin.
Un combo éphéméride, des suggestions de vin pour accompagner votre été.
Super, avant que vous ne partiez en vacances.
Voilà.
Petite pause estivale.
Exactement, pause estivale.
Et aussi, il y aura la chronique économie en compagnie de Michel Poitvin, bien sûr. On y va avec une nouveauté, c'est Maurice qui nous a déniché ça. Vilain pingouin, ça vous dit? Voici Eh oh!
T'es mon voisin, mais mon regard a fui. Dieu merci, je ne suis pas lui. Il n'est jamais revenu, on l'a jamais revu. Mais voilà, je n'ai rien dit parce que je tiens à la ville. Autant recommencer à zéro. Les remords m'étouffent un peu trop. Et je suis seul dans mon cachot. Tricotez-moi assez d'excuses pour me garder au chaud. Passer vers midi pour embarquer un vieil ami. Mais moi, ben, j'ai fait rien, je le connaissais pas si bien. Il n'est jamais revenu, on l'a jamais revu. Mais moi, je n'ai rien dit parce que je tiens à la vie. Peut-on recommencer à zéro? Les remords m'étouffent un peu trop. Et je suis seul dans mon cachot. Profiter de la noirceur pour prendre mon frère et ma sœur. Ils ont semé la peur pour récolter la terreur. Finalement, ce fut à mon tour. Ici se termine mon discours. Plus personne pour m'entendre, plus personne pour me défendre. Je suis jamais revenu, on m'a jamais revu. Mes regrets sont futiles parce que la vie ne tient qu'à un fil. Peut-on recommencer à zéro? Les remords m'étouffent un peu trop. Et je suis seul dans mon cachot. Tricotez-moi assez d'excuses pour me garder au chaud.
Effectivement, Hélène, vous avez raison. C'est bien les vilains pingouins qui chantaient « Eh oh! »
Oui, on les reconnaît. Hein? La signature est toujours là. À la une du Journal de Montréal, bien, on en parle depuis sa disparition, depuis qu'on a appris qu'elle était disparue, cette fillette qui s'appelle Claire Belle. Disparition de la petite Claire, message terrifiant de la mère. C'est le titre du Journal de Montréal après des dizaines d'heures d'angoisse. Les recherches intensives se poursuivaient toujours hier soir pour retrouver Claire Bell, 3 ans, dont la mère a mis en ligne une vidéo inquiétante le jour de sa disparition. « Tu essaies ça à nouveau et ça va mal virer », en anglais, parce qu'on a traduit ici. C'est ce que lance Rachel Todd dans une courte vidéo publiée sur son compte TikTok dimanche. La femme tient son enfant dans ses bras et fixe la caméra, l'air irrité. Le descriptif qui accompagne la vidéo donne froid dans le dos. « As-tu déjà affronté une mère qui n'a plus rien à perdre ?» On ignore à quoi elle fait référence, ni à qui elle s'adresse, mais les images sont plus que troublantes, sachant que quelques heures plus tard, l'enfant serait porté disparu dans des circonstances nébuleuses. D'ailleurs, la mère a été accusée d'abandon d'enfant la nuit dernière. C'est ce qu'on apprend dans la presse d'aujourd'hui. Et puis, on a ici la description, toujours dans le Journal de Montréal, j'y reviens, description de la fillette Claire Bell, 3 ans, 90 cm ou 3 pieds, 35 livres. Elle a les cheveux et les yeux bruns et la fillette portait des pantalons gris et une chemise blanche à manches longues avec un col rose au moment de sa disparition. Et puis, un autre titre à la une du Journal de Montréal, conflit Israël-Iran. À cause du conflit Israël-Iran, Trump doit quitter le Canada à la hâte. Et on en parle partout, à la une du Devoir également. On a une photo. Trump quitte le G7 plus tôt que prévu. Le président américain a annoncé lundi qu'il avait décidé de quitter le sommet du G7 une journée plus tôt en raison du conflit au Moyen-Orient. Plus tôt en journée, le premier ministre du Canada, Mark Carney, et lui avait annoncé qu'il cherchait à conclure une entente d'ici 30 jours. Avec cet accord, le Canada veut faire tomber les droits de douane imposés depuis des mois par la Maison-Blanche. On parle aussi de la famille Souchon à la une du Devoir d'aujourd'hui. Franco de Montréal, l'étreinte des Souchon, père et fiston, ours et Pierre, ce sont les noms de ses garçons. Ours, en fait, c'est le nom d'artiste de Charles. Alain Souchon est de retour à Montréal pour les Franco en famille cette fois. Et je ne sais pas si ça vous intéresse, mais Alain Souchon, ça doit être excellent en spectacle. Et c'est de la visite très, très rare, accompagné de ses deux fils. Et le concert a lieu, le spectacle a lieu à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts, vendredi 20 juin. Dans le cadre des Franco, et en première partie, l'excellente Jeanne Côté. Ça devrait être une très, très belle soirée. Également, le Devoir enquête, un contrat de villégiature au lieu d'un bail. Zachary Goudreau, qui écrit « Des propriétaires profitent d'une « lacune » entre guillemets dans le Code civil en faisant signer à des locataires un contrat de villégiature, aussi un mot écrit entre guillemets, plutôt qu'un bail de logement, ce qui leur permet notamment d'exiger la remise d'un dépôt de garantie qui est interdit dans les baux résidentiels. Des pratiques que dénoncent des avocats en droit du logement et un travailleur temporaire. Un contrat de villégiature est beaucoup plus permissif qu'un bail traditionnel, puisqu'il vise à encadrer les hébergements ayant une vocation touristique. Il peut y avoir des règles très strictes dans les hôtels tout en respectant le cadre légal puisque leurs clients ne sont pas considérés comme des locataires résidentiels, illustre l'avocate Valérie Black-Saint-Laurent. Et aussi, dans le Devoir, on parle d'une personne en fauteuil roulant forcée de descendre 15 étages par les escaliers. Prisonnier au 15e étage de l'immeuble où il travaillait au centre-ville de Montréal à cause des ascenseurs non fonctionnels, un citoyen handicapé, incapable de joindre le personnel de sécurité et le propriétaire de l'immeuble, a dû se traîner jusqu'au bas de l'édifice par les escaliers parce que le service de sécurité incendie de Montréal, le CIM, a refusé de se porter à son secours. Voilà l'un des dossiers ayant nécessité en 2024 l'intervention de l'Ombudsman de Montréal, qui a déposé son rapport annuel hier au conseil municipal. Le CIM refuse d'intervenir, arguant que les pompiers ne se déplacent que si une personne est coincée dans un ascenseur, relate l'Ombudsman Nadine Mailloux dans son rapport. Le citoyen a finalement dû se résigner à descendre les escaliers laborieusement, ses collègues également en situation de handicap se chargeant de transporter son fauteuil roulant jusqu'au bas de l'immeuble. Après l'événement, il a dénoncé la situation auprès d'élus et du CIM, mais insatisfait des réponses obtenues, il s'est adressé à l'Ombudsman. C'est une situation rare et surtout, c'est une situation qui, pour une raison que j'ignore, n'était pas prévue par les protocoles d'incendie, souligne Nadine Maillot. Après discussion, le CIM et le service de police de la Ville de Montréal, qui est chargé du service d'urgence 911, ont convenu de modifier leurs protocoles respectifs pour qu'une telle situation ne se reproduise plus. Joint par Le Devoir, le CIM rappelle que le propriétaire de l'immeuble est responsable du bon état de ses ascenseurs, le transport ou le déplacement des personnes à mobilité réduite dans des situations où il n'y a aucun risque imminent pour l'intégrité physique n'est pas dans le mandat du CIM, indique le service dans un courriel. 15 étages en fauteuil roulant. Pas évident, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis à la une de la presse plus, guerre entre Israël et l'Iran. Trump s'en mêlera-t-il? Tout le monde devrait évacuer Téhéran. C'est l'inquiétante mise en garde qu'a lancée le président des États-Unis, Donald Trump, avant de quitter précipitamment le sommet du G7 en Alberta pour réunir son Conseil de sécurité nationale. Présage d'une nouvelle escalade entre Israël et l'Iran. On a, entre autres, la chroniqueuse Laura Julie Perrault qui s'exprime à ce sujet. La petite Claire à la une de la presse plus. Où se trouve la petite Claire, une fillette de 3 ans recherchée de La Salle à Coteau-du-Lac? Et métier public, femme privée, la superstar de l'information Sophie Thibault se prépare à animer son dernier bulletin de nouvelles.
Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her ass. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could his name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa? Copacabana. The hottest spot north of Havana. Here at the Copa, Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Her name is Lola, she was a showgirl, but that was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair, she sits there so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony, now she's lost her mind at the Copa, Copacabana. Don't fall in love.
Barry Manilow, Copacabana.
Manilow, qui est à Montréal récemment pour donner un spectacle. Et c'est une chanson qu'on écoutait en lien avec votre chronique, André Lacombe.
Oui, on garde la surprise.
Oui, on garde la surprise. Alors, vous commencez avec les prénoms du jour et le thème de la journée mondiale. Le prénom du jour, c'est pas Barry.
C'est pas Barry, non, c'est Hervé. Ça finit en « et », mais c'est Hervé. En référence à Saint Hervé, moine breton du 6e siècle, c'est également le protecteur des chevaux, Saint Hervé.
Ah, oh, ouais. On l'aime, Saint Hervé.
Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse telle que décrétée par l'ONU. Hélène, ce sont près de 40 % de la superficie totale des terres dans le monde qui sont déjà considérées comme dégradées et ça s'accélère. Donc, pas besoin de dire que c'est pertinent, cette thématique,
c'est
cette journée.
40 % c'est énorme.
C'est énorme, et ça augmente.
Vous poursuivez maintenant avec des faits marquants qui sont arrivés un 17 juin.
En 1579, c'est loin ça, n'est-ce pas, l'amiral britannique Francis Drake arrive sur la côte ouest américaine qu'il explore sur la portion, je dirais, qui correspond à peu près à la Californie d'aujourd'hui. Et il nomme cette terre New Albion. Albion, et en prend possession au nom d'Élisabeth I, et non Élisabeth II, bien sûr. Elle était loin encore, Élisabeth II. En 1745, les Britanniques s'emparent pour la première fois de la forteresse de Louisbourg, aujourd'hui située en Nouvelle-Écosse. Et si vous avez la chance de passer par là, c'est magnifique, Louisbourg. C'est été reconstitué, c'est un village complet, oui. C'est pas juste une forteresse, ça vaut vraiment la peine. Et les Français la perdront définitivement aux mains des Britanniques, cette fameuse forteresse, en 1758. Donc, c'est 13 ans de guerre et d'instabilité. En 1776, fin de l'invasion américaine, dans ce qui correspond à peu près à la partie du Québec ou du sud du Québec actuel. Okay. Mm-hmm. En 1885, après un voyage en mer de 2 mois, la Statue de la Liberté arrive à New York.
Elle a voyagé 2 mois, la statue.
2 mois, c'est long, ça. Et rappelons qu'il s'agissait d'un don des Français aux Américains en signe d'amitié.
La statue a bougé.
Laquelle amitié est mise à rude épreuve de nos jours, n'est-ce pas? En 1944, naissance de la République d'Islande, qui était auparavant annexée au Danemark. Et c'est la Deuxième Guerre mondiale qui est venue changer tout ça. En 1957, commercialisation des premiers frisbees. On a tous joué au frisbee. Hein?
Ah, j'étais tellement pas bonne au frisbee. Vous, est-ce que vous étiez bon? Est-ce que vous êtes bon?
Oui, quand même. Ouais. Ça fait très longtemps que j'ai joué au frisbee.
Moi, je lance ça tout croche. J'ai jamais appris la technique pour que ça soit droit.
Ah. Produit, ça, tout est dans le coup de poignet.
Oui, je sais.
Produit inventé plusieurs années auparavant, mais qui a été racheté par une compagnie qui lui a donné ce nom, qui est devenu un générique, comme un Kleenex, un Skidoo, un Frigidaire, etc. Le nom Frisbee fait référence à la Frisbee Pie Company, qui était détenue par un certain William Frisbee. Et ces assiettes à tarte que les étudiants de l'université Yale s'amusaient à se lancer. C'est ça l'ancêtre
comme
frisbee.
Du frisbee.
C'est ça l'ancêtre, c'est nono.
Ah, puis c'est un jeu qui est encore, c'est un classique, ça.
C'est un classique.
Oui. Alors, on poursuit maintenant en 1972.
Oui, l'affaire du Watergate qui débute, parce que c'est dans la nuit du 17 juin que des individus, comme dirait Claude Poirier...
Des individus
sont arrêtés dans l'immeuble du Watergate au siège du Parti démocrate avec du matériel d'écoute en leur possession. Alors, ils n'étaient pas là pour faire le ménage. Oui, faire un certain ménage, mais pas... Pas les poussières, comme on dit en France.
Ils poussaient d'autres choses.
Et tout ça a amené à la chute du président Nixon, comme on sait, par la
suite. Scandale. Ouais. Et maintenant, les dates anniversaires.
Anniversaire de naissance en 1931, Paul Bayard. Vous souvenez-vous de Paul Bayard?
Ben oui, la vraie voix de Bobinette.
La toute première Bobinette.
On avait les records chez nous, les disques de Bobinette.
Oui. Ah,
et
oui.
C'est sa voix que j'entends, son rire extraordinaire.
Absolument. Qui est décédée très jeune, hein,
ouais,
Paul Bayard, à 44 ans. Donc, ça fait un bout qu'elle est décédée en 75. En 1943, c'était en son honneur.
Copacabana.
Barry Manilow, chanteur et musicien américain. Et comme vous l'avez dit, qu'il était au Centre Bell le 30 mai. Et
donc,
ce serait sa tournée d'adieu, est-ce qu'on dit.
Oui, parce que là, il aurait quoi, 82?
Oui.
Oui.
Tout à fait, 82 ans.
Ouais, c'est quand même un âge vénérable pour faire ses adieux à son public, malgré que je pense que Charles Aznavour, avec 90, continue de chanter.
Henri Salvador aussi. Oui. Mais bon,
tant qu'on a la voix et la forme.
Oui, tout à fait. En 1952, le réalisateur français Étienne Châtillier, auquel on doit plusieurs comédies à succès, dont « La vie est un long fleuve tranquille »,« Tati Daniel », et Tanguy, bien sûr, grand succès au box-office.
On le voit plus, on n'entend plus parler.
Non,
de ce
ça fait longtemps. Ça fait longtemps.
Je me demande si on ne prononce ça pas Châtillièse.
Peut-être Châtillièse ou Châtillier.
On entend les deux.
Oui. Toujours la même année, 1952, l'auteur, compositeur, interprète Fabienne Thibault.
La serveuse automate.
La serveuse automate, 73 ans aujourd'hui.
Bonne fête, Fabienne.
Bonne fête. Et en 1980, la célèbre joueuse de tennis américaine Venus Williams. 45 ans aujourd'hui. Mmh. Et du côté des décès, en 1881, James Starley, qui est considéré comme le père de la bicyclette moderne, ça a été le premier à utiliser pour les roues les fameux rayons de broche métallique sous tension. Ça a permis d'alléger considérablement la roue et de lui donner une solidité supplémentaire. Avant ça, c'était des barreaux de bois ou de métal. Alors, c'est... Il a vraiment donné, fait entrer la bicyclette dans l'ère de la modernité.
Merci, James.
Merci, James. En 2011, le comédien québécois Ronald France, qui a commencé sa carrière dans les années 50 auprès de Paul Buissonneau et des artistes de la Roulotte. La Roulotte, c'était une petite caravane de théâtre qui visitait les parcs de Montréal durant l'été pour amuser les enfants.
Le théâtre La Roulotte continue toujours au parc La Fontaine.
Vous me l'apprenez, vous voyez. Je suis content de voir que ça fait des petits.
Et Ronald France était un bon comédien, mais c'est surtout sa voix dont on se souvient.
Oui, absolument.
Une voix
Oui, dans, il a
tellement
fait
carrière
dans le doublage. Ça a été son pain et son beurre.
Oui,
oui.
Et il a joué dans Bidule de Thermacadam.
C'était Bidule lui-même.
Oui, c'est ça.
Et en 2022, Jean-Louis Trintignant.
Une autre voix inoubliable.
Tout à fait.
Ah, wow. Un homme et une femme, entre autres. Oui. Et vous terminez, André, cette chronique avec quatre suggestions de vins pour accompagner l'été 2025.
Qui dit été dit rosé, souvent. Hein? Pas seulement rosé, mais entre autres. Alors, je vous propose ici une suggestion de la chroniqueuse Karine Duplessis-Piché. Le Cademoussa Terre Sicilienne 2024. Un rosé de qualité offert à un prix, mon Dieu, j'oserais presque dire dérisoire, 11,60 $.
Oh, oui,
on voit plus ça.
Abordable.
Vraiment.
Très.
Très abordable.
Très sec aussi.
Vin très sec, tout à fait. On est dans les traits, ce qui n'est vraiment pas le cas de tous les rosés, comme on sait. Et selon les dires de Mme Duplessis-Piché, rempli d'arômes de fleurs, de petits fruits rouges et de melons. Un vin bio à teneur très raisonnable en alcool, 12,5 %. C'est pas si commun de nos jours. Mm-hmm. Un vin parfait pour accompagner les salades estivales ou à l'apéro. Je répète, 11,60 $ quand même.
Et répétez le nom.
Cademoussa, Cademusa, Terre Sicilienne 2024.
Un rosé pas cher. Alors, pas quand cher. On fait un, je sais pas, un party, on peut en acheter une caisse, on n'est pas en faillite.
Allons-y.
On se met pas dans le trou,
non.
Si vous me permettez l'expression.
Pardon.
Un blanc maintenant.
Un blanc, un chardonnay français de la Loire, et non de la Bourgogne, hein, comme c'est souvent le cas avec les chardonnays. Domaine de la Ragotière, cœur de schiste 2023. Vous savez, le schiste, c'est cette roche avec l'aspect feuilleté ou en galette là, qu'on voit souvent.
Oui, avec c'est ça, des couches.
Des couches. On est ici sur un chardonnay qui est aux allures de Sauvignon, avec des notes d'agrumes, typiques des Sauvignons de la Loire. C'est un vin de la Loire, je le répète. Mais c'est un vin aussi d'une belle complexité, avec une trame minérale légèrement boisée, bien sec, et avec un taux d'alcool là aussi très raisonnable. Hélène, si vous aimez les sushis, c'est un vin tout indiqué pour les accompagner. C'est parfait. Mais ça va très bien accompagner aussi des mets asiatiques légèrement relevés. 22,25 $, c'est quand même relativement raisonnable pour un vin français de ce calibre-là.
Donc, avec des sushis, vous recommandez?
Oui. Domaine de la Ragotière, cœur de schiste 2023.
Un autre vin, cette fois-ci, toujours blanc, mais grec.
Grec. Un classique de la SEQ, le domaine Papa Giannakos Savatiano Marco Pulo 2023.
Tout un nom, hein?
Oui, c'est grec. Papa Giannakos, hein, oui. Ça ne peut pas être autre chose que grec. Tout en fraîcheur et en saveur, mais avec une petite finale surprenante sur la banane.
Ah!
Oui, non, mais ce n'est pas désagréable du tout, du tout. Vous savez, le petit côté un peu onctueux de la banane, mais juste pour dire que ça le... Parce que c'est quand même frais, là.
On disait ça souvent, hein, dans le temps qu'on parlait beaucoup, on mettait de l'avant là, les nouveaux Beaujolais.
Oui, qui goûtait la
il
banane.
Il a un goût de banane.
Oui, mais non, on n'est pas là-dedans.
Non, on n'est pas dans ce genre de banane-là. C'est plus subtil.
Plus subtil, okay. Tout à fait. Très bien balancé aussi. Ça va très bien accompagner les grillades de poissons et fruits de mer, très grec, n'est-ce pas? Mais aussi des plats un peu plus goûteux. Essayez-le avec un guacamole un petit peu relevé, là. C'est très, très bon. Sous la barre des 20 $19.55.
Parfait. Et le domaine Papagiannakos.
Domaine Papagiannakos Savatiano. Laissez faire Marco Pulo, mais ça, c'est l'appellation de la SEQ. Mais juste domaine Papagiannakos Savatiano, et vous y êtes.
Avec une petite finale sur la banane.
Sur la banane, en l'honneur de Philippe Catherine.
Laissez-moi manger ma banane. Ben oui, qui est dans les parages.
Qui est en spectacle, je pense que c'est ce soir.
Oui, entre autres.
Parenthèse.
Ouentelus, en passant.
Ouentelus. Pour terminer, si vous voulez vous gâter un petit peu, là, un rouge léger aux délicieuses saveurs de fruits rouges, mais avec aussi du corps de la matière, le Château de Pierreux 2022. Un brouillé, c'est une appellation du Beaujolais. Vous savez, les Beaujolais, c'est des vins reconnus pour un petit côté accessible sur le plan gustatif, ça se boit bien. Donc ça se sert bien un peu rafraîchi pour accompagner des grillades sur le barbecue. Et même des fruits de mer, s'ils sont un peu relevés, parce qu'on n'est pas dans un gros rouge qui tache ici, là. Et selon la SAQ, c'est même un vin avec un potentiel de vieillissement.
Ah oui?
C'est un excellent vin. J'ai eu la chance d'y goûter. Et hâtez-vous, hein, parce que c'est seulement 6608 bouteilles. C'est un vin à tirage limité. C'est écrit sur l'étiquette.
Garochez-vous.
Garochez-vous, parce que ce ne sera pas disponible encore très longtemps, ce
non,
vin.
Non, même à 31 $
Même à 31 $ d'après moi, ça va partir vite.
Alors, si on aime le rouge léger, mais qui va bien vieillir.
Léger, mais c'est pas ouais. Du jus de raisin. Là.
Qui a
ça
du caractère.
A quand même du corps, ça a quand même du caractère, mais il n'y a pas de tanin là-dedans, il n'y a pas de bois, y a pas de, c'est vrai, on est vraiment sur le fruit. Là. Mais avec du caractère. Quand même.
Ah, bien, merci beaucoup pour les éphémérides, ces suggestions de bons vins pour l'été, même... À longueur d'année.
Pourquoi pas l'automne?
Bien, vous nous quittez pour mieux nous revenir, j'espère.
Le 12 août prochain.
Alors, André, de belles vacances.
À vous aussi.
Ainsi qu'un bel été. Merci beaucoup.
Merci.
Et au plaisir de vous retrouver.
À bientôt.
On parlait de Philippe Catherine ou MTLUS. Elle sera, elle, au Club Soda ce soir, Marie-Annick Lépine qui s'en vient sur nos ondes.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Même s'il ne fait pas soleil, elle garde sa bonne humeur. À force méchante pareille, son cœur est un rêveur. Même s'il ne fait pas soleil. L'achat de la maison, faut-tu renouveler ça? Si ça fait gaz grave, pas de compagnon, elle savoure son célibat. Elle fait rien de plate, ne ménage le salon, veille attendra. Il va chez sur le sofa. Elle lave enfin ses draps. Son tapis de douche est un vieux torchon qui pue la pisse de chaud. C'est le bordel. Car elle fait ce qui lui tente. Elle est dysfonctionnelle, mais combien attachante.
Le cœur est un rêveur, c'est la chanson-titre de son plus récent album solo de Marie-Annick Lépine. Je vous rappelle qu'elle est au Club Soda ce soir à 8h.
Merci très cher. Alors, on parle maintenant avec Michel Poitvin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Alors, tout va mal, mais on garde le moral quand même. Mais vous nous parlez de l'Israël et de l'Iran qui sont en guerre. Est-ce qu'il y aura des répercussions économiques?
On serait en droit de s'en attendre, mais jusqu'à hier, de façon surprenante, peut-être, il y en avait eu peu. Les marchés, au début de la guerre, les marchés avaient chuté vendredi. Puis hier, il y avait remonté. On dirait que tout était normal. C'était surprenant. Et puis même, on dit qu'il va avoir un impact sur le prix du pétrole. Puis jusqu'à maintenant, le prix se maintenait à son niveau d'avant la guerre. Mais ce matin, ça bouge un peu. Hier, le président Trump a quitté prématurément le sommet du G7 à Kananaskis, là, en Alberta. Et c'est avec aller vers une rencontre avec son cabinet et ses responsables de sécurité. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis vont joindre à Israël pour la guerre, puis là, la guerre prendra une toute autre dimension avec l'implication américaine? Et même Trump, hier, a averti les Iraniens d'évacuer Téhéran. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de spéculations, puis ben là, on commence à avoir des répercussions économiques. Le prix du pétrole est en hausse d'à peu près 1,5-1,6 % ce matin. C'est pas énorme, mais c'est quand même significatif. Il va falloir voir ce qui va se passer. Là, je rappelle que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Alors ça, c'est un petit détroit qui est entre le golfe Persique puis la mer d'Arabie. Puis 20 % du pétrole mondial transite par ce détroit. Alors s'il y avait une guerre, est-ce qu'il y aurait un blocus dans le détroit? Puis là, la livraison de pétrole à l'échelle mondiale serait significativement affectée. Alors, c'est ça à suivre. Et puis, il y a un peu de spéculation sur le prix du baril de pétrole. Puis les marchés boursiers aujourd'hui, mais un peu sans surprise, sont en baisse, mais en même temps, c'est pas énorme ça non plus. Là, c'est à peu près moins un tiers de % la baisse, là, okay. -0.30, -0.35 %.
Les tarifs font encore les manchettes économiques?
Oui, les tarifs, bon, on n'y échappe pas. Là, on en a parlé souvent dans les derniers mois. Mais il y avait quelques articles aujourd'hui là, qui nous rappellent qu'ils sont toujours là, si on ne l'a pas remarqué sur notre portefeuille. Premièrement, Hydro-Québec fait un appel d'offres pour avoir de l'énergie éolienne. Donc, on veut installer des parcs éoliens pour 300 mégawatts d'électricité. Et cet appel d'offres-là, bon, est ouvert à tout le monde. Hydro-Québec nous mentionne que toute soumission américaine, là, de compagnies américaines qui n'ont aucune installation au Québec, leur soumission va être majorée de 10 %. Donc, si tu soumissionnes à tant de millions, il va falloir ajouter 10 % avant de comparer aux autres soumissions. La directive du gouvernement du Québec du 4 mars, là, suite à l'imposition des tarifs par le gouvernement Trump, c'était que la majoration pouvait aller jusqu'à 25 %. Donc 25 %, c'est un plafond. Hydro-Québec a mis 10 %. Donc ça, c'est une première nouvelle. On verra qu'est-ce qui va arriver lorsque les soumissions vont rentrer, puis le choix d'Hydro-Québec là, pour la compagnie qui installerait le parc éolien. Dans un autre ordre d'idée, mais toujours sur les tarifs, les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre, donc le Vermont, le Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, New York, ont invité des délégations du Québec et des provinces maritimes.
Ah, en quel honneur?
Bien, ils veulent nous dire qu'ils nous aiment. Donc, quand on écoute leur président, c'est moins évident. Mais eux, ils nous aiment. Ils aimeraient bien qu'on retourne.
Ah oui, ils ont sorti les pancartes, là. Pour nous souhaiter la bienvenue.
Exactement, parce que ce qu'on a remarqué, là, il y a une baisse significative du tourisme canadien aux États-Unis, de l'ordre de, ça varie entre 20 et 60 % selon les États. Et puis, beaucoup d'écoles ont annulé leur voyage de fin d'année aux États-Unis. Et puis, Statistique Canada, donc c'est des données un peu plus solide, nous dit que les voyages de retour, bon, on mesure pas les voyages à l'aller parce qu'à l'aller, on passe pas par les douanes canadiennes, c'est plus les douanes du pays que l'on visite. mais les voyages de retour par avion des États-Unis de résidents canadiens en mai ont chuté de 24 % par rapport à mai de l'an dernier, alors que les voyages de retour de d'autres pays outre-mer ont augmenté de 9,8 %. Donc, on se rend compte qu'il y a un déplacement, là, on va moins aux États-Unis, puis on va plus ailleurs.
Oui, les gens restent au Québec, au Canada, ou vont en Europe.
Exact. Puis les voyages aller-retour en automobile des résidents canadiens aux États-Unis ont totalisé 1,3 million, donc en baisse de 38 % comparativement à mai 24. Donc, c'est le cinquième mois consécutif qu'il y a une baisse d'une année à l'autre.
Ouais.
Donc, ça semble
une tendance de
boycotter les États-Unis. Air Canada a réduit de 10 % ses vols vers la Floride, Las Vegas et l'Arizona. Et puis, ses concurrents WestJet, Flair Airlines et Air Transat ont pris des mesures similaires. Donc, on va pas mal moins aux États-Unis. Puis, alors, c'est un peu dans la foulée de l'invitation des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre de venir nous dire on nous aime. Les Américains nous disent tous qu'ils nous aiment, mais en quelque part, il y a dû avoir quelqu'un qui a voté pour Trump. J'ai eu plus que 50 % des gens qui ont voté pour
ouais.
Des voteurs, je dirais, qui ont voté pour lui.
Ça prend des preuves aussi.
Exact. Et puis, bon, enfin, tarif de 50 % sur l'aluminium là, qui est imposé. Rio Tinto nous annonçait ce matin qu'elle gèle les embauches. Donc, il n'y a pas de congédiement prévu, mais on gèle les embauches. Puis, en même temps, on n'a pas de plan d'investir aux États-Unis. On se rappellera que le président Trump va imposer ces tarifs-là pour inciter les compagnies étrangères à construire des usines aux États-Unis. Rio Tinto n'a pas de plan en ce sens pour le moment. Puis pourquoi Rio Tinto n'est pas trop affecté? On gèle les embauches, mais en même temps, il n'y a pas eu de congédiement massif. C'est que le tarif de 50 % est sur tous les pays, donc pas juste l'aluminium canadien. Donc Rio Tinto n'est pas désavantagé par rapport aux autres, sauf par rapport aux compagnies localisées aux États-Unis, mais c'est pas, on ne produit pas beaucoup d'aluminium aux États-Unis. On importait la majeure partie de l'aluminium qu'on utilisait dans la production. Donc Rio Tinto maintient sa position relative. C'est pour ça que l'impact n'est pas aussi important. Puis peut-être finalement une petite chose là, qu'on peut mentionner. En marge du G7 dont on parlait tout à l'heure, président Trump et notre premier ministre Carney se sont rencontrés. On a débuté des pourparlers en vue d'un accord commercial. Ce qu'on nous dit, c'est que ça progresse, mais on n'est pas encore au bout des négociations. Il reste encore beaucoup de choses à régler, mais au moins, il y a une certaine ouverture.
Qu'est-ce qu'on va faire sans vous, là? On n'aura plus de nouvelles économiques, là, pour un bon bout de temps.
Ah, ben je vais en vacances.
Bien oui. Non, mais je fais une petite blague. Mais on va vous apprécier.
C'est arrivé dans le passé que de mes vacances, j'ai pu continuer la chronique. Mais là, en Europe, ça va être plus compliqué avec le décalage. Et puis, c'est plus difficile de concilier les horaires avec la chronique.
Ouais. Michel.
Il me reste encore que je pense... Ah, est-ce qu'il y en a une la semaine prochaine?
Ben non, parce que ça va être la Saint-Jean la semaine prochaine. C'est férié. Canalem va passer des émissions en rediffusion, je crois bien, hein? Mathieu,
ah, okay.
me fait
donc,
signe que oui.
Donc, je devrais être de retour le 22 juillet en espérant avec des meilleures nouvelles.
Mais on l'espère. Il faut toujours espérer. Merci, Michel. Oui. Bon été. Bon voyage en Europe. Et je rappelle que vous êtes professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Merci, Michel.
À très bientôt. Au revoir.
Ouais.
À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? Est-ce qu'un jour c'est fini? Fini la comédie. Chanter après minuit, place de la mairie. Les premières rumbas la nuit, un dernier tango à Paris. Est-ce qu'un jour c'est fini? Fini.
Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. À quoi tu penses? À quoi tu penses?
quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Sept ans de réflexion, une robe qui vole. Sept ans de passion, on pleure, on rigole. Sur le piano du salon, chercher des paroles, faire des chansons, console. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses?
C'était mieux avant, même si c'est pas vrai. J'avais tout le temps je l'avais. Chanteur à 20 ans, les cheveux emmêlés. J'étais dans le vent et ce vent m'allait.
À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses?
C'était la chanson « À quoi tu penses » du père Alain Souchon et les deux fils Pierre Souchon et Ours.
Les nouvelles francophones du Canada en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Francopresse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Julien, vous commencez par une nouvelle tirée de Francopresse concernant l'aéroport de Toronto qui manque encore à ses obligations de bilinguisme.
On a obtenu un rapport de suivi de plainte qui a été déposé par le commissariat aux langues officielles. C'était des plaintes de 2021-2022 concernant l'aéroport Pearson de Toronto. Le rapport évalue, c'est un rapport de suivi, ça évalue les progrès réalisés suite à des plaintes et est-ce que l'aéroport a suivi les recommandations que fait le commissaire. Parmi les 20 plaintes examinées dans ce rapport-là, il y en avait seulement 5 qui avaient eu vraiment des solutions pour lesquelles il y avait eu une mise en œuvre. Pour les autres, l'aéroport Pearson dit que soit qu'il n'y a pas eu de progrès, soit qu'ils sont en désaccord avec les conclusions du commissaire en affirmant que ça ne relève pas de leur responsabilité. Je donne un exemple. Il y a une plainte qui concernait une intervention d'un policier à l'aéroport. La personne aurait voulu être servie, parler en français au policier, et le policier ne parlait pas français. L'aéroport soutient que, puisque c'est la police de Toronto qui était sur place, ce n'était pas sous sa responsabilité d'offrir des services en français. Mais le commissaire répond que non, c'est un service qui est offert à l'aéroport, même si c'est la police. Il y a une entente avec l'aéroport et la police pour desservir le bâtiment, le territoire, donc ils doivent s'assurer qu'il y a des policiers bilingues affectés à l'aéroport. Le commissaire rappelle qu'il y a de nombreuses plaintes chaque année sur les services en français à cet aéroport et à d'autres aussi, et que même si l'aéroport conteste certaines plaintes, c'est le commissaire qui a le pouvoir de décider si la plainte est fondée ou non. Puis on revient un peu sur la nouvelle loi sur les langues officielles devrait renforcer le pouvoir du commissaire, mais on attend encore les règlements pour l'application de ces nouveaux pouvoirs-là.
Le monde municipal est en crise au Nouveau-Brunswick. C'est dans le Moniteur acadien qu'on en parle.
Oui, qui reviennent sur des bouleversements récents dans plusieurs municipalités du Nouveau-Brunswick, surtout dans la région où il couvre, là, du sud-est du Nouveau-Brunswick. Ils ont observé plusieurs, même de nombreuses démissions, tant au niveau des conseillers municipaux que des directions générales des villes. Par exemple, la municipalité de Nouvelle-Arcadie a vu 3 directions générales en 2 ans et demi. La source du problème, ce serait la réforme de la gouvernance locale introduite par le gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick le 1er janvier 2023. cette réforme-là, elle modifie le fonctionnement des gouvernements municipaux et a aussi fusionné plusieurs villes, surtout des villes francophones dans ce coin-là. On en a déjà parlé un peu, là, il y en a qui avaient des débats sur l'affichage et des services en français. Donc, cette nouvelle loi-là a entraîné des réaménagements complexes dans le fonctionnement des villes. Selon le directeur général de la Commission des services régionaux de Kent, les problèmes surviennent aussi en partie parce que les résidents ont des attentes plus élevées que ce que les municipalités peuvent fournir. Puis, on ajoute à ça les réseaux sociaux qui créent des divisions, hein, quand il manque d'informations, puis le manque de services se transmet dans les réunions municipales.
Et on reste au Nouveau-Brunswick, Julien. Il y a beaucoup de chantiers à Saint-Jean, mais pas encore de nouvelles écoles francophones.
Oui, dans un texte du Saint-Jeanois, on rapporte que la ville de Saint-Jean, au sud du Nouveau-Brunswick, a une forte augmentation dans ses demandes de permis de construction. Entre janvier et avril 2025, il y aurait eu 207 permis qui auraient été accordés. C'est 5 fois plus que pour la même période l'année dernière. Donc, c'est la construction de maisons va bien. Il y a aussi 2 nouvelles écoles en construction, mais ce sont des écoles anglophones. Le conseil d'éducation du district scolaire francophone sud attend encore des nouvelles de financement pour la construction d'une nouvelle école dans la ville parce que le centre scolaire communautaire Samuel de Champlain est déjà plein. Pas plus tard que la semaine dernière, on nous dit dans l'article, on a dû ajouter 2 classes mobiles à l'école. Donc, on espère bientôt avoir une annonce de financement pour la construction d'une école à Saint-Jean parce que oui, le français est populaire.
Des mots codés pour cacher des documents sur les plans pour la ceinture de verdure de Toronto. Eh bien?
Mm-hmm. Ouais, le droit nous rapporte ça. Le commissaire à l'information, la commissaire à l'information à la vie privée de l'Ontario, Patricia Cossim, a révélé dans un rapport annuel présenté la semaine dernière que le gouvernement Ford avait dissimulé des documents qui sont liés au projet de développement de la ceinture de verdure. Ils utilisaient des termes comme Special Project ou des lettres simples comme GB ou G astérisque pour donner des noms à des documents. Petit rappel rapide sur le scandale de la ceinture de verdure, ce que c'est ça concerne une promesse que Doug Ford avait fait dans ses premières années au gouvernement de ne pas toucher à cette zone écologique-là qui est protégée autour de Toronto contre le développement urbain. Il a quand même annoncé plus tard qu'il allait vendre une partie des terres à des promoteurs pour construire des logements. Il y a eu une levée de boucliers, des enquêtes de la vérificatrice générale qui ont aussi démontré qu'il y avait eu une malversation nécessairement, mais de l'interférence de la part de ministres et de fonctionnaires. Ça a mené à des démissions et face à la controverse, M. Ford a annulé le projet. Mais il y a une enquête de la Gendarmerie royale du Canada qui est toujours en cours. Donc, la commissaire à l'information... Il y a des citoyens qui ont fait des demandes d'accès à l'information parce qu'ils n'avaient pas reçu des réponses satisfaisantes à leurs demandes. Donc, la commissaire a enquêté sur ces plaintes-là et a découvert qu'il y a vraiment beaucoup de documents qui étaient édités de la manière à les rendre presque impossibles à découvrir. Comme je reviens sur l'exemple du G astérisque. Si vous vous souvenez que quand on veut faire de la recherche, on ajoute un astérisque, ça veut dire cherche-moi, donne-moi toutes les réponses avec un mot qui commence par la lettre G, peu importe le nombre de lettres après. Donc, ça rend presque impossible de trouver un document qui porte ce nom-là.
Eh bien, il y a quelque chose d'intriguant là-dedans. Mm-hmm. On dirait qu'on est dans un film d'espionnage. Cohorte historique, les premiers diplômés de l'Université de l'Ontario français. On en parle dans l'express.ca.
Oui, qui souligne cette première cohorte-là de 64 premiers diplômés de baccalauréat. La cérémonie a eu lieu le 12 juin. Il y avait plusieurs invités de marque, hein, parce que bon, on se rappelle un peu l'histoire de l'Université de l'Ontario français qui avait été annoncée en 2017. Dans 2018, Doug Ford annonce l'annulation du financement pour l'université. Levée de bouclier en Ontario français, finalement, on a pu... avec le gouvernement fédéral, avoir du financement. Donc, c'est, dans un sens, tout un accomplissement qu'on ait enfin des diplômés dans cette université-là. Il y avait plusieurs invités de marque, incluant la lieutenant-gouverneur de l'Ontario et l'ancienne chancelière de l'université, elle s'appelle Edith Dumont. Il y avait la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, qui était là aussi. Je rappelle aussi que l'université a ouvert ses portes en 2021, en pleine pandémie, avec 4 programmes d'éducation en français.
une tragédie qui est portée à l'écran, c'est dans l'eau vive.
C'est pas nécessairement relié à la francophonie, ça aussi, mais je trouvais que c'est une nouvelle inspirante que nous rapporte l'eau vive. Il y a une compagnie de production cinématographique de Regina qui a dévoilé les deux premiers épisodes là, lors d'une soirée d'une série documentaire qui s'appelle We Were Broncos. Ça suit le Ryan Strasnitsky, qui est un des survivants de la tragédie des Broncos de Humboldt en 2018, ouais. L'autobus qui est le joueur d'hockey qui avait été frappé par un camion. Ryan a survécu à l'accident, mais il est paralysé à partir de la poitrine. Fait qu'on raconte sa réhabilitation là-dedans. Et c'est les nouveaux objectifs qu'il s'est donné. On dit que c'est un garçon très positif qui cherche toujours à se dépasser et qui est très résilient. Donc, on suit son parcours, son entraînement dans l'espoir de participer aux Paralympiques de 2028 en tant que joueur de basketball en fauteuil roulant. Les épisodes vont être diffusés sur Accessibility Media Inc., qui est une plateforme dédiée au contenu en lien avec l'accessibilité et la diversité.
Bien, merci pour l'information. Et on lui souhaite à ce Ryan de réaliser tous ses rêves, lui qui porte énormément de deuil. Et on termine avec quelque chose de positif qui nous met dans l'esprit estival, un mini-guide vacances des journaux francophones.
Bien oui, parce que je m'en vais moi-même en vacances, bien donc oui. Je vais vous laisser avec quelque chose. On a construit à Franco-Presse un petit mini-guide vacances, comme on dit, avec l'aide des journaux francophones du Canada, avec plusieurs d'entre eux. On a donc une employée ou un employé de chaque journal qui a partagé un de ses endroits favoris dans sa région, un endroit touristique ou autre truc à visiter. Il y a des villages historiques là-dedans, des musées ou des parcs naturels. Fait que vous trouverez plein de lieux à visiter si vous choisissez de voyager au Canada cet été au lieu d'aller vers le sud. On ne l'a pas encore publié sur Franco-Presse, mais l'Express de Toronto l'a fait. Donc, si vous allez là, vous allez pouvoir voir ce qu'on conseille.
Alors, Julien Caillouette, on vous souhaite le meilleur. De très belles vacances, un magnifique été, puis au plaisir de vous retrouver quelque part en juillet.
Pareillement.
Merci.
Merci. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got to hear. Wow, I feel nice. The sugar and spice. I feel nice. The sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. Hey!
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Actualité internationale avec François Larochelle, ancien diplomate canadien. Bonjour, M. Larochelle.
Bonjour, Mme Denis.
Le sommet du G7 se déroule depuis dimanche à Kananaskis, en Alberta, présidé par le premier ministre du Canada, Mark Carney. Il se termine aujourd'hui. Le conflit israélo-iranien a transformé l'agenda, mais c'est évidemment le départ de Trump, le départ précipité du président des États-Unis hier soir qui a attiré l'attention. Mais d'abord, M. Larochelle, quelle est l'origine du G7?
Bon, le G7 a été créé en 1975, donc il y a 50 ans. C'est alors qu'un petit groupe de 6 économies avancées, sans le Canada, a formé ce que l'on connaît maintenant comme étant le G7. Il avait été formé en réaction à une crise économique découlant d'une forte hausse des prix du pétrole. Le Canada s'y est joint un an plus tard. En 1977, l'Union européenne est invitée à prendre part à ces discussions. En 1998, s'y est ajoutée la Russie pour un G8, mais elle a été expulsée en 2014 suite à son annexion de la Crimée. À Kananaskis, on retrouve donc l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, avant que le président Trump quitte, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, ainsi que l'Union européenne.
Comment le G7 fonctionne?
Bon, le G7 se réunit annuellement au niveau des dirigeants de ces pays afin de coordonner les approches en matière de stabilité économique mondiale, des menaces pour la paix et la sécurité internationale et d'autres questions transnationales. Il est fondé sur le consensus. Il n'y a pas de traité, il fonctionne sans traité, ni secrétariat permanent. Les 7 pays membres assument la présidence du groupe à tour de rôle pendant un an. L'an prochain, ce sera la France et, croyez-le ou non, dans 2 ans, les États-Unis. Il revient aux pays qui assument la présidence d'établir les priorités pour l'année et d'organiser et d'accueillir le sommet annuel des dirigeants et les réunions ministérielles.
Mais à quoi ce groupe sert-il exactement?
Le G7 est avec le temps devenu une espèce de club qui permet à ses membres de discuter de manière directe et informelle de politique économique globale et de crise mondiale. Dans le passé, on a comparé ce groupe comme un comité directeur du monde libre. Pour le Canada, la participation à ce groupe nous donne évidemment de l'importance. Mais depuis quelques années, et surtout plus récemment avec l'arrivée de Trump, le G7 perd de son influence. Et le départ de Trump, son départ précipité hier, semble le confirmer. On a Trump d'un côté et les autres leaders plus ou moins de l'autre. Un G6 plus 1, en quelque sorte. Mm. La montée des pays du sud global, comme la Chine, l'Inde et d'autres, sape aussi la portée du G7. C'est sans doute pour cela que d'autres dirigeants non membres du G7 ont été invités cette année, comme la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, le premier ministre Modi et le président ukrainien Zelensky.
On peut dire que le sommet du G7 ressemble aussi à un grand cirque médiatique. Là, je voyais tous les journalistes sur place. Là, ça fait courir beaucoup de monde.
Oui, et il y a beaucoup d'opportunités, de belles photographies entre dirigeants internationaux ouais. avec les Rocheuses en arrière-plan. Il y a effectivement des centaines de journalistes qui s'y trouvent, sans compter les membres des délégations nationales et une sécurité omniprésente. Dans le cas de Kananaskis, il fallait aussi s'assurer que les cougars et ours grizzly se tiennent loin du site.
Mais j'imagine que le plus gros défi, outre les cougars et les ours grizzly, dans la gestion du sommet, c'était la présence du président Donald Trump.
Évidemment, il fait toujours tout pour attirer l'attention et il est ingérable. Avec son départ soudain hier soir pour Washington, on peut dire qu'il a réussi son coup.
Ouais. Est-ce qu'il y a un bilan de ce sommet jusqu'à maintenant?
Il est très tôt, là, mais le premier ministre Carney aura bien tenté d'éviter tout coup de théâtre lors du sommet, mais disons que c'est un peu peine perdue, car Trump en a décidé autrement hier. Le président a quitté la réunion juste après le dîner, ou souper, là, comme on dit ici, consacré hier soir aux enjeux internationaux.
Non, il a pris le train de souper.
Il a pris son souper.
Ouais.
Avant de prendre l'avion. Pour manger, il a probablement mangé des hamburgers et des frites à bord de son avion par
oui,
la suite.
Et une boisson gazeuse.
Voilà. Pour justifier ce départ, c'était la situation au Proche-Orient qu'il a évoquée. La journée d'hier, cependant, avait commencé comme elle a fini. À peine arrivé, Trump avait dénoncé l'exclusion du G8 de son homologue russe, Vladimir Poutine, en 2014. Puis les États-Unis ont bloqué durant une bonne partie de la journée l'adoption d'un texte spécifique sur la guerre entre Israël et l'Iran et celle à Gaza. Trump a fini par accepter le projet de texte. Dans ce texte, les dirigeants du G7 prônent la désescalade, affirment le droit d'Israël de se défendre et appellent à protéger les civils. Ils soulignent aussi que l'Iran est la principale source d'instabilité et de terrorisme dans la région, et aussi que ces pays avaient toujours été clairs sur le fait que l'Iran ne pourrait jamais disposer d'une arme nucléaire. Finalement, le G7 demande que la résolution de la crise en Iran aboutissent aussi à une désescalade des hostilités plus générales au Moyen-Orient, y compris un cessez-le-feu à Gaza.
Le départ de Trump est aussi une mauvaise nouvelle pour Zelensky, le président ukrainien, qui devait participer aujourd'hui même, le 17 juin, à une réunion consacrée à la guerre en Ukraine.
Oui, il espérait y croiser justement Donald Trump pour discuter avec lui de l'achat d'armes américaines pour l'Ukraine afin de poursuivre les combats contre la Russie. S'il vient toujours au Canada, je ne sais pas si c'est confirmé, je présume que oui, qu'il va quand même venir, il devra se contenter du G6, comme les autres dirigeants invités d'ailleurs que j'ai mentionnés plus tôt. Mais ce n'est pas si mal après tout.
Ouais. Et puis le Canada dans tout ça?
Bon, le Canada fait ses propres priorités, évidemment renforcer la paix et la sécurité mondiale, lutter contre l'ingérence étrangère, améliorer la sécurité énergétique, en renforçant les chaînes d'approvisionnement minéraux critiques et stimuler la croissance économique au moyen de l'intelligence artificielle. Il voulait aussi accroître la coopération contre la lutte des incendies de forêt, ce qui est bien légitime de ce temps-ci en Alberta notamment. C'était la première fois que le premier ministre Carney présidait une telle réunion.
Mm-hmm. Et la première journée semblait s'être passablement bien passée jusqu'à la nouvelle du départ de Trump.
Oui. Désormais, un sommet réussi est un sommet sans psychodrame et sans affrontement majeur. D'ailleurs, la partie canadienne avait choisi de ne pas essayer d'avoir une déclaration commune pour conclure la réunion, comme c'est la tradition. On avait opté pour des déclarations plus ciblées. Désormais, limiter les dégâts d'un sommet est devenu un but en soi. On peut quand même se réjouir que Trump n'ait pas claqué la porte en partant de Kananaskis. Mm-hmm. Il a quitté assez poliment, si on peut dire, dans son cas. Et qui sait, les membres du G6 et Carney sont peut-être même soulagés de pouvoir se retrouver entre eux sans la présence de l'ogre. Un bilan de ce sommet sera fait par Mark Carney en conférence de presse en fin de journée aujourd'hui. On peut s'attendre qu'il soit du genre le verre à demi plein ou à demi vide.
Oui, tout est une question de point de vue, hein?
Oui.
Ou de la personne qui boit le verre d'eau.
Tout à fait.
Mais je disais dans la mise à jour là, toute récente dans la presse qu'à bord d'Air Force One, Donald Trump a signalé qu'il espérait toujours faire du Canada son 51e État.
C'est comme une obsession. Ouais. Là. Je pense qu'à son âge, il devient un peu répétitif.
Gâteux.
Je ne dirais pas jusque-là, non. Mais disons que peut-être.
Je ne voudrais pas. Non, je veux pas avoir de troubles avec lui. François La Rochelle, c'est toujours un plaisir et je vous souhaite un bel été.
Bien, à vous aussi.
À une prochaine, quelque part en septembre.
Voilà. Au revoir.
s'en mêle, faut pas dans la poussière. Et moi la tête haute, moi la tête fière. Une porte s'ouvre puisqu'une autre se ferme. Une certitude rare, certitude claire. J'ai couru et couru, couru à perdre haleine. Chacun des détours en valait la peine. Ça aura valu la peine. Et les doutes pour
C'était Caracol et sa chanson « Certitude ».
Le Mondial de la bière s'en vient très bientôt à partir du 20 et ce jusqu'au 22 juin. Et j'ai le grand plaisir de recevoir en studio Jeannine Marois, qui est présidente du Mondial de la bière. Et on vous qualifie comme l'âme du Mondial de la bière. Bonjour, Madame Bonjour. Marois. Bonjour, Jeannine. Est-ce qu'on je vous appelle
oui,
Jeannine,
Madame Marois? Oui, absolument, bien sûr.
Alors, ben, appelez-moi Hélène. Le Mondial de la bière, c'est la combientième édition?
C'est la 31e édition.
Ah oui, eh oui déjà?
On a démarré ça en 1994. J'avais deux associés à l'époque. Et depuis 2002, bien, je suis toute seule dans cette aventure, mais avec une équipe extraordinaire autour de moi.
Est-ce que c'est vraiment mondial, le Mondial de la bière?
Effectivement. En fait, cette année, on a des bières de l'Italie, de la Belgique, de la France. Et on a aussi certains exposants qui, eux aussi, ont des importations. Qui viennent d'ailleurs. Et on a aussi, bien sûr, plein de belles brasseries québécoises. Et cette année, on a aussi des vignobles et du cidre et de l'hydromel.
C'est une première?
En fait, on en a déjà eu, mais là, on a fait un beau pavillon de ces produits-là du Québec. Donc, vignobles, cidre, hydromel. Et on a aussi fait un autre beau pavillon qui s'appelle le Bistrot Gourmand, dans lequel les gens vont être invités à découvrir un fromage avec une bière et un vin.
Alors,
et tu sais, comme tout ça, c'est québécois, ben, tout le monde va pouvoir revivre l'expérience à la maison.
Et pourquoi est-ce que le Mondial de la bière a lieu à Montréal? Comment c'est arrivé exactement?
En fait, j'ai rencontré mes collègues qui voulaient faire une étude de marché. Et en fait, ils ont tombé sur ma boîte de communication. Moi, j'avais une agence de graphisme à l'époque. Et comme j'avais déjà beaucoup de contacts dans le milieu des communications, ben, en fait, on a démarré ensemble. Ils m'ont invité pour être partenaire avec eux. Et finalement, c'est moi qui est devenue l'âme du Mondial au fil du temps. Et finalement, c'était déjà international dès le début. Hein.
Ouais.
Notre mission, c'était de faire découvrir aux gens les bières des 5 continents, avec toujours dans le sens de la consommation responsable. En 31 ans, il n'y a jamais eu d'accident au Mondial de la bière.
On souhaite que ça
continue.
C'est
vraiment un événement de dégustation. C'est vraiment bien fait. Et c'est très international, effectivement. Et au-delà de ça, le Mondial de la bière a aussi un impact à l'étranger. On a deux événements au Brésil, à Rio de Janeiro et à Sao Paulo. Et on a fait 6 ou 7 événements, si c'est même pas 9, en France.
Ah oui.
Donc, à Mulhouse, à Strasbourg et à Paris. Et là, maintenant, on fait des petits mondiales nomades aussi, hors Québec. Donc, on va, par exemple, à Arras, dans un événement de bière, et on amène des produits de bière du Québec.
Justement, est-ce que nos bières québécoises sont reconnues? Sont appréciés?
Très, 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 très. Nos bières gagnent beaucoup de concours à l'étranger. On a vraiment des magnifiques microbrasseries au Québec. Il n'y a personne qui n'a à nous envier quoi que ce soit.
Alors, qu'est-ce qui va se passer là, pendant ces 3 jours? D'ailleurs, d'abord, ça se déroule à la gare Windsor et puis...
À la cour Rio Tinto. Donc, c'est un site intérieur et extérieur. C'est tout à côté du Centre Bell. Alors, et donc, c'est beau temps, mauvais temps parce que c'est couvert aussi à l'extérieur en partie. On a un très beau VIP à l'extérieur, le VIP Shawbridge. Une petite bière que vous pourrez découvrir là-bas, qui est une Pilsner italienne, d'ailleurs.
Oh, la canette est tellement jolie.
Oui, c'est beau, hein.
Avec un scooter.
Une petite Vespa.
Oui, Promenade à Venise.
Voilà. Alors ça, on a ça. On a aussi un autre partenaire, Boréal, qui, lui, offre des bières sans alcool. Donc,
oui, vous avez apporté d'ailleurs une rousse sans alcool.
Absolument. Et c'est une excellente bière sans alcool. On a un très beau pavillon sans alcool cette année qui aura 46 produits, pas seulement de la bière, aussi du vin, des mocktails. Et...
Alors, pour ceux et celles qui disent « Moi, je ne bois plus l'alcool, ça fait plus partie de ma vie », il y a quand même...
Il y a une très, très belle offre cette année. Il y a beaucoup d'autres exposants aussi qui ont des produits sans alcool. Et ça, c'est intéressant aussi parce que tous les gens qui sont mineurs, on va dire, parce que le Mondial de la bière, c'est ouvert à tous et c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Mm-hmm. Et à ce moment-là, les jeunes, ils peuvent venir découvrir des produits sans alcool. Alors ça, c'est intéressant parce que ça les éduque aussi.
Et c'est de plus en plus populaire.
De consommer, bien sûr.
Et il y a des activités prévues lors de ce mondial?
Absolument. On a un très beau défilé de mode qui va avoir lieu à 18h30 le vendredi. Donc ça, c'est à ne pas manquer. Ça va se faire dans le bassin d'eau. Alors, ça va être assez exceptionnel à voir.
Dans
l'eau, oui. Il y a le beau bassin d'eau dans la cour Rio Tinto. Oui. Et là, les mannequins vont traverser.
Défiler.
Le bassin. Donc ça va être assez mémorable.
Ça se passe quand?
Vendredi, le 20 à 18h30.
Parfait.
Ensuite, on a des spectacles. Donc, le jeudi soir le vendredi soir et le samedi soir, on a Tam Boréal et puis le Motel Capri. Le dimanche soir, on a une soirée d'humour.
Alors, ça aussi.
Oui, absolument, avec 5 humoristes qui vont être là pour nous faire rire.
Est-ce que c'est vous, Janine, qui s'occupez de toute la programmation?
En fait,
vous
moi,
parlez
mon
de
équipe.
Votre équipe extraordinaire
moi, équipe.
Aussi.
Oui,
là.
C'est ça.
Mais
exact,
vous avez toujours votre grain de sel à ajouter là, en
c'est
tant
certain.
Que présidente. Et est-ce que le monde de la bière est un monde plutôt masculin? Est-ce que c'est facile d'évoluer comme femme?
C'est-à-dire que maintenant, quand même, il y a beaucoup plus de femmes maintenant dans ce secteur. Ouais. Il y a des femmes brasseurs, il y a des femmes propriétaires de brasseries. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup
plus de
femmes.
Au Québec et à travers le monde?
Vous savez, quand j'ai commencé, là, mettons, moi, j'allais dans les événements annuels, la Brewer Association, qui font un gros événement chaque année, et ça se déplace aux États-Unis dans les États différents. Et au début, je pouvais dire qu'on était les doigts de la main. Les femmes dans cet environnement-là.
Vous pouvez compter le nombre de femmes sur...
assez facilement, oui.
Une main, une seule main.
Et maintenant, c'est tout à fait le contraire. Il y a des femmes partout dans ces conférences-là et c'est vraiment très, très, très valorisant aussi.
Et j'allais vous dire, pour ceux et celles qui n'aiment pas vraiment la bière, mais vous en avez déjà parlé, il va y avoir du cidre, il y a d'autres choses à boire
absolument,
que la bière.
Absolument.
Mais est-ce qu'il y a une manière de faire découvrir la bière ou de faire apprécier la bière? Pas de force nécessairement, là, mais est-ce que vous comprenez pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas la bière?
En fait, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de découvrir des bières nouvelles. Au Mondial, il y a au-delà de 300 bières nouvelles qui sont là cette année. Et ces bières-là, il y a des choses comme, par exemple, une bière chocolat orange qui vient de l'Italie. Il y a des bières sûres aussi aux fruits. Il y a une variété exceptionnelle. Donc, pour les gens qui n'aiment pas la bière, c'est le moment de venir découvrir. Et nos gens qui sont dans les kiosques, ils sont capables d'expliquer leurs produits et de vous faire goûter un tout petit peu pour voir si vous aimez ou pas. Après ça, si vous tombez en amour avec quelque chose, bien là, vous pouvez goûter juste un 2-11 ou un 4-11.
Oui.
Hein? Le Mondial, c'est une formule de dégustation, vous savez. Et puis,
est-ce qu'il y a des bières sans gluten?
Il faudrait que je vérifie. Je ne peux pas vous confirmer parce que d'habitude, on en a, mais je ne sais pas cette année, je n'ai pas vérifié ça.
Bon,
bonne question.
Vous nous reviendrez là-dessus.
Oui,
absolument. Et puis, si vous avez la réponse d'ici le début de l'événement, je vais en parler en ondes avec plaisir. Alors, est-ce que vous avez des suggestions de microbrasseries montréalaises à visiter?
Oui. Ah, écoutez, il y a un article qui est sorti ce matin de Tourisme Montréal où il fait la tournée des brasseries à Montréal. C'est un article absolument intéressant à lire. Alors, il y en a énormément. Nous, on publie la route des bières de Montréal. Donc, on a cette carte qui est sur notre site Internet où vous pouvez trouver toutes les brewpubs et les brasseries qui sont à Montréal.
Mm-hmm.
Alors, et c'est vraiment impressionnant. Écoutez, il y en a autour de 70 environ, peut-être même plus. Alors, moi, je les aime beaucoup. Si vous voulez m'en faire nommer quelques-uns, je pourrais toujours dire que j'aime beaucoup Dieu du ciel, que j'aime beaucoup Benelux, que j'aime beaucoup le Cheval Blanc.
Vous êtes une amatrice de bière et de microbrasserie.
Oui, oui, oui.
Et qui vous a fait aimer la bière, Janine?
En fait, j'ai découvert ma première bière que j'ai vraiment aimée, c'est la bière de McCausland. C'est la Saint-Ambroise Pale Ale. Avant ça, j'avais bu des bières chez moi, jeune, nos bières classiques.
Moi, oui. Bon, mais, une petite 50, une Laurentide.
Oui, c'était pas mauvais non plus, hein, vous savez.
Une bière froide,
c'était,
là.
C'était très désaltérant et c'est encore bon, d'ailleurs. Mais c'est là que le goût m'est arrivé pour la bière.
Et la bière la plus récente que vous avez goûtée, particulièrement aimée, est-ce qu'il y en a une là, qui vous vient en tête?
Mais là, en fin de semaine, j'ai goûté plein de bières italiennes puis de bières belges. Alors, je dois vous dire que j'ai tombé sur plein d'excellentes bières. C'est impossible. En fait, tout est une question de moment. Mm-hmm. Hein? Si on sent de bonne humeur ou si on sent un peu triste. Ou si on
de moment et de compagnie.
Oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est quand avec les gens qui on est aussi, qui font que la bière est meilleure, peut-être des fois. Voilà.
Et qu'est-ce qui détermine la couleur d'une bière?
Ah, alors ça, c'est le malt. Le malt a énormément de variétés de couleurs. Alors, donc, vous allez avoir soit des malts très pâles, mm-hmm, et des malts très foncés, même torréfiés, tout ça. Et donc, c'est ce qui donne la couleur à la bière.
Et là, Jeannine, vous avez apporté quelques bières. Il est un peu tôt pour y goûter, malgré qu'il y a des bières sans alcool.
Oui, il y a une bière sans alcool.
Et les deux autres bouteilles là, que vous avez apportées?
Donc, si ça, c'est une
bière... Il y a deux canettes, il y a deux bouteilles.
Oui, voilà. Alors, deux bières du Québec. Et ici, vous avez une bière belge de la brasserie Querel.
La bouteille rappelle les bouteilles de notre enfance.
Oui, c'est
là,
ça, exact.
Modèle en verre,
c'est une
foncé.
Kajiskou, c'est une bière un peu complexe. Et là, je vous le dis, celle-là, elle a 15% d'alcool.
Oh!
OK? Donc, je vous l'ai amenée. Vous pourrez la déguster avec un très bon fromage ou un repas.
Mon sandwich midi, là. Ouais. Partagez ça avec Mathieu.
Sinon, ici, vous avez une bière italienne. De Baladin.
Oh, la bouteille est jolie, l'étiquette.
Vous allez voir, toutes les bières italiennes, c'est en général, c'est très beau aussi, les designs. Oui. Je vous laisse ça aussi, la découvrir.
Oui. Qu'est-ce qu'on peut y lire sur cette bouteille italienne?
Birra Nationale.
Nationale.
Birra, okay. Baladin.
Bon. Voilà. Est-ce qu'on goûte la bière sans alcool?
Ce serait l'idéal, oui, à cette heure-ci. Hein?
Mettez-le.
Voilà.
Attendez
un peu. Oui, je vois.
Est-ce que c'est bien, là? Ah, ça n'a pas marché. Le petit son là, de la canette qui s'ouvre. Bon, ça fonctionne. Le son de l'été.
On l'a eu.
Oui.
Je vous sers
un petit échantillon. Merci beaucoup. Voilà. Mathieu, bien, vous y goûterez après. Alors, celle-là, c'est la Boréal Rousse.
Oui. Alors, donc...
J'ai le droit de boire en onde, là, parce qu'il n'y a pas d'alcool.
Aucun alcool, okay, là-dedans, c'est ça. Bien, je vous dis ça, il y a peut-être un petit 0.005, okay, là,
bon,
mais...
ça ne paraîtra souvent pas. De toute façon, l'émission finit dans 7 minutes.
0.5. Moi, je
ne suis pas une amatrice de bière rousse habituellement, mais je la trouve vraiment délicieuse. Oui. Elle est froide, premièrement.
Elle est froide, c'est très bon.
Puis elle a un bon goût, là, pas un petit peu amer, mais rien là, pour...
Oui, je vais en prendre une gorgée, moi aussi, comme ça.
Traumatiser les papilles. Oui, dites-moi ça. Comment vous décrivez ce que vous goûtez? Moi, j'ai pas les mots nécessairement. Je suis plus connaisseur ou connaisseuse de vin, malgré que...
Non, mais vous goûtez un petit peu le côté maltais. C'est une bière un peu maltais, hein? Mm-hmm. Contrairement à, si vous voulez, si on goûtait la Chambridge, la Promenade à Venise, qui est une pilsner italienne, elle est un peu plus houblonnée.
OK.
Hein? Donc, c'est différent.
Celle-là, vous l'avez ouverte, mais on n'a plus assez de verre pour y goûter.
Bien, j'ai encore un verre, si vous voulez.
Ah, non. Bien, on aura l'occasion d'y goûter plus
celle-là,
tard.
Celle-là, elle est 4,9%, donc c'est pas...
OK, il y a de l'alcool. Alors, on ne boira pas en onde.
Pas tout de suite.
Mais là, il y en a, comme vous dites, 300 à découvrir.
Mais en fait, il y a plus de 400 produits à découvrir sur le site, et dont au-dessus de 300 nouveautés qui ne sont jamais venues au Mondial de la bière encore. Fait qu'à chaque année, c'est notre défi aussi, c'est d'avoir toujours des nouveautés, vous savez. On a aussi une très belle sélection alimentaire, ça c'est important de le mentionner. On a une zone gourmande où les gens, une à l'intérieur, une à l'extérieur, où les gens vont pouvoir s'installer.
On mange du fromage, mais plein d'autres choses, là.
On mange des grillades, on mange des gaufres, on mange des pogos style coréen, on mange...
Des pogos style coréen?
Oui.
Je
vous invite à venir découvrir ça. Ouais. Vous allez voir, c'est intéressant. Mm-hmm. On a aussi des pizzas, des burgers, tout ce qui est classique aussi. On a aussi des empanadas. Bon, on a vraiment, vraiment une très belle sélection.
Donc, on mange, on boit, puis absolument. Il y a toutes sortes d'autres activités.
Il y a des noix aussi. Il y a toutes sortes de
Et ça commence quand, là? C'est le vendredi 20, mais à quelle heure? heures.
Ça commence à 15 heures dans l'après-midi.
Ouais.
Et donc, c'est l'ouverture officielle. Et on aura des petits cadeaux pour les 300 premiers visiteurs. On ne dit pas c'est quoi.
Ah.
Vous allez pouvoir
peut-être
le voir.
Peut-être de la bière, qui sait. Puis le samedi et le dimanche, les heures...
Le samedi, on ouvre à 11 heures, on finit à 23 heures. Le dimanche, on ouvre à 11 heures et on finit à 21 heures.
Et le coût d'entrée?
Le coût d'entrée, c'est 20 $ et l'accès inclut le verre du Mondial de la bière. Donc, et...
Celui que vous avez apporté, là,
pas
un
celui-là,
beau...
c'est non. Un autre verre. En fait, on en a plusieurs. Celui-là aussi est
un verre en verre.
En fait, on a, oui, absolument. On a plusieurs sortes de verres. Donc, on a les verres vintage, dont celui-là, c'était la 27e édition. Et on a aussi les verres annuels. Cette année, on a le verre du 31e. Donc, on a des verres très différents. Les...
Donc, on paye notre droit d'entrée.
Vous
on
avez
a un
le
verre en cadeau.
Et vous avez aussi une dégustation incluse de bière sans alcool chez Boréal.
Puis, j'imagine qu'on rencontre plein de spécialistes aussi, là, des gens qui connaissent la bière, qui sont capables d'en parler avec un vocabulaire et une culture. Riche, là. Et il y a toujours plein de monde, hein? Je lisais que vous avez accueilli plus de 2,2 millions de visiteurs depuis les débuts, là, en 1994.
Oui, c'est ça. En fait, ça, c'était le chiffre du 30e anniversaire. Ça inclut pas... jusqu'à 29, donc ça inclut pas le 30e. Donc on a 2 ans de plus. Alors, mais oui,
encore
c'est un événement vraiment d'envergure internationale et on est reconnu à l'étranger. Et on apporte beaucoup de retombées économiques aussi pour la ville parce qu'on attire des gens hors Québec. Il y a des entreprises, des brasseries qui font affaires avec des entreprises étrangères aussi qui font des bières en collaboration. Donc, il y a vraiment beaucoup d'impact pour la ville de Montréal quand on s'en va à l'extérieur. On est attrayant, quoi.
Et est-ce que vous voulez poursuivre encore longtemps la présidence du Mondial de la bière, Mme Marois?
C'est un peu mon bébé, alors je n'ai pas de problème avec ça.
ça me vient en tête. Là. Je ne sais pas si c'est j'allais dire l'alcool, mais j'ai bu une bière sans alcool. Est-ce que vous avez un lien de parenté avec Pauline Marois?
Ah!
Parce que vous lui ressemblez,
oui.
Je trouve un peu.
Oui, c'est ma grande sœur. Ouais,
ah oui, OK. Oui. Je viens de voir la ressemblance. Alors, Jeannine Marois, ça a été un plaisir de faire votre connaissance. Bon Mondial de la bière. On rappelle que ça commence en fin de semaine et c'est à la gare Windsor et la cour.
Et la cour Rio Tinto. Puis je vous invite à aller sur le site internet festivalmondialbière.qc.ca.
Parfait. Bien, merci beaucoup
merci.
Pour tout. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Ici Hélène Denis qui remercie aussi Mathieu Tessier en régie. On se retrouve demain. Passez une belle journée.